Bonjour à tous. Je vous propose de prier avant qu'on ouvre la parole ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous as donné ta parole, qu'à travers elle tu te révèles, que cette parole, elle est vérité. Et Seigneur, je te demande qu'encore aujourd'hui, elle puisse nous parler, que tu puisses permettre que nos cœurs, nos esprits soient encore touchés par elle, qu'à travers elle on te découvre. Et Seigneur, on veut être à l'écoute de ce que tu as encore à nous dire ce matin. Amen. Amen. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes. Alors, on ne s'est pas concerté lors des derniers cultes avec les autres prédicateurs, mais finalement, on fait une série sur les psaumes. Et on va lire ensemble le psaume 36. Alors, je lis dans la traduction de la Bible du Sommeur. Le psaume 36. Au chef de cœur de David, serviteur de l'Éternel. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Il est insensé à ses yeux de respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes, que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils savourent les richesses des festins de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent ceux qui font le mal. Ils sont renversés, ils tombent sans pouvoir se relever. On arrête là notre lecture. Je tente de récupérer l'ordinateur. Le thème de ce message, c'est de dire que l'antidote à l'orgueil, c'est de se tourner vers la grandeur de Dieu. Puisqu'on est tous tentés par l'orgueil, on a tous besoin de nous rappeler de la grandeur de Dieu. J'aimerais commencer en vous racontant une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme. Qui s'appelle Donald Crowhurst. Cet homme, c'était un Anglais. Un ingénieur bidouilleur qui avait une petite société qui s'appelait Electron Utilisation dans les années 60 en Angleterre. Il avait 35 ans, alors il était bon en calcul mais pas tellement bon en affaires. Et donc du coup, sa société était en train de couler, il inventait des gadgets mais ça se vendait pas bien. Il aimait bien bidouiller dans son garage avec des câbles électriques dans tous les sens. Et puis finalement, sa société ne marchait pas très bien. Il avait fait des gadgets pour les navigateurs, mais ça ne marchait pas. Il était toujours persuasif pour essayer d'obtenir des rallonges auprès de ses créanciers, mais là, il était vraiment au bord de la faillite. Et c'est alors qu'il apprend qu'un journal, le Sunday Times, organisait la toute première course autour du monde en solitaire, sans escale. Alors lui, il était un navigateur du dimanche. Et puis, ce qui l'intéressait beaucoup, c'est que ce Golden Globe Challenge avait à la clé un trophée pour le premier arrivé et un prix de 5 000 livres sterling pour le plus rapide des compétiteurs. Il s'est dit, avec 5000 livres sterling, je me refais, c'est bon. C'était une occasion inattendue de sauver son entreprise du naufrage. Alors qu'il s'est inscrit, alors qu'en fait, il n'était ni un navigateur chevronné, ni il n'avait pas non plus de bateau de course, et puis il n'avait pas non plus la somme d'argent pour en faire construire un. Mais en fait, il était très fort pour persuader les gens. Et alors au début, il a essayé, il s'est dit, je vais essayer de me faire prêter un vrai bateau de course, un voilier. Bon, ça n'a pas marché. Et après, il a eu une super idée. Il s'est dit, je vais faire un bateau révolutionnaire, un trimaran. Alors, ça s'était jamais vu d'utiliser un bateau pour faire des courses au large en solitaire à cette époque-là. À l'époque, ce type de bateau n'était pas considéré comme fiable parce que, en fait, il fallait jamais en lâcher la barre. Alors, pour une course en solitaire, c'est compliqué. Mais Crowhurst, il s'est dit, je vais mettre un ordinateur de bord. On est dans les années 60. Hein. Je vais mettre un ordinateur de bord, tout un tas de systèmes innovants conçus par moi. Et comme ça, je vais pouvoir m'en sortir tout seul. Et en fait, ce bateau pourrait être la vitrine de mon entreprise. Ce tour du monde, ce sera l'occasion de prouver au monde entier que je suis un brillant inventeur. Et enfin, je vais obtenir le succès commercial après lequel je cours. Et donc, il avait réponse à tout. Il a réussi à convaincre des sponsors pour mettre en route le chantier, assez rapidement. Et il a signé une clause avec ses sponsors. Il leur a dit, il n'y a pas de problème, je suis sûr de moi. De toute façon, même si j'échouais, je m'engage à racheter le bateau. Donc les préparatifs ont lieu avant la course, de façon un peu frénétique. Et puis... ça devient presque hystérique. Hein. Finalement, le bateau se construit, mais il n'y a rien qui marche à bord de ce coûteux bateau. Et en fait, au lieu que ça soit un bijou de technologie, c'est un bazar total de câbles électriques. Et lui, il se sent coincé. Il se dit, non, mais c'est trop tard pour que je renonce. En plus, il a un super attaché de presse qui a déjà vendu toute l'histoire à la presse britannique. Il sait que c'est risqué, mais il se dit, tout le monde y croit, je vais y croire aussi. Sur les 9 marins qui sont engagés dans cette course, il est le seul qui n'est pas un marin aguerri. Et il est le dernier à partir le 31 octobre 68, à la date limite fixée par le règlement de la course. Et alors la première nuit à bord, c'est la catastrophe. Il ne peut même pas dormir dans sa couchette parce qu'il a mis des provisions à la va-vite à la dernière minute. Et dès le début du voyage, les ennuis commencent. Son gouvernail automatique lui donne du fil à retordre, son récepteur radio tombe en panne, il y a un déflotteur qui prend l'eau, et les performances du bateau sont vraiment très décevantes. Il va dans l'Atlantique au moins 3 fois plus lentement que ce qu'il imaginait. Et donc, 15 jours après son départ, il songe à abandonner. Et il écrit dans son livre de bord, « En l'état actuel du bateau, mes chances de survie ne pourraient guère, je pense, être supérieures à 50%, ce que je ne puis considérer comme acceptable. » Effectivement, je pense qu'on serait un peu pareil. Mais il est face à un dilemme quand même. Soit il continue et puis il risque de mourir, ou soit il rentre, puis alors c'est la défaite, la ruine totale, quoi. Et donc il rumine de longues journées, il tente de réparer son bateau, il se traîne là, il est au large du Portugal, et puis il finit par trouver une autre option, complètement délirante. Puisqu'il ne peut pas mener le tour du monde dont il rêve, à la vitesse qui lui aurait permis de remporter le prix, en fait il va inventer son voyage. Il va raconter à tous ceux qui sont restés à terre, qui n'ont pas la moindre idée d'où ils se trouvent, un voyage imaginaire. Alors, à cette époque, on est dans les années 60, il n'y a pas encore de balises sur les bateaux qui émettent toutes les demi-heures un signal à un satellite, donc c'est possible de faire cette supercherie. Et donc, une fois qu'il a remis sa radio en route, il va télégraphier de fausses bonnes nouvelles à son attaché de presse. Il fait croire qu'il fonce vers l'équateur à une allure folle, et tout le monde va marcher. Il se lance dans la rédaction d'un faux journal de bord, et il sait que s'il arrive en tête, du coup, les organisateurs de la course, ils n'auront que le journal de bord pour voir ce qu'il a vraiment fait. Donc, il se lance dans des savants calculs, il ne faut pas oublier que c'est un ingénieur, hein, pour rendre compte de sa navigation imaginaire de manière plausible. Et donc, il met dans son cahier des tas de détails nautiques complètement inventés. Donc, comme il était assez bon matheux, il y arrive. Et donc, il fait tout un calcul pour se dire, si j'avais avancé à telle vitesse, où est-ce que je devrais être, quels seraient les vents, et tout ça. Et finalement, il y a des journalistes qui ont consulté le journal de bord et ils disent, finalement, sa fraude est à beaucoup d'égards la réalisation technique la plus extraordinaire de tout le voyage. Et il a réussi à embobiner tout le monde. Alors, il poursuit sa route quand même, mais il s'écarte des routes commerciales, parce qu'il n'a pas envie de se faire repérer, évidemment, et puis il donne des messages un peu flous. Il va même jusqu'à inventer de toutes pièces un record de vitesse au mois de décembre. Le soir du réveillon, on le croit dans les 40e rugissants, donc tout au bout du sud de l'océan Atlantique. Alors qu'en fait, il est sans but, là, au large de l'Amérique du Sud. Et donc l'écart, évidemment, ça se creuse de jour en jour, ça devient complètement dingue. Et il est enfermé dans son mensonge. Il n'a personne à qui confier ses états d'âme, il est au milieu de l'océan. Et il commence à douter. Alors il décide de temporiser, ce qu'il fait c'est qu'il prétexte une panne de générateur pour plus avoir besoin de donner de nouvelles. Et il profite de silence pour accoster discrètement dans un petit port en Argentine, le temps de rafistoler son bateau. Il reprend la mer, il va jusque dans les 40e rugissants, et puis finalement, là il prend quelques images parce que la BBC lui a confié une caméra, donc il se dit « bon, il faut quand même que j'ai des images ». Et puis finalement, il rebrousse chemin, il met cap au nord. Et après presque 3 mois de silence, on a 3 mois là, il reprend contact avec son attaché de presse et lui dit qu'il est à proximité du Cap Horn. Bon, sauf qu'en fait, il ne l'a pas traversé. Il est resté toujours du même côté. Il n'a jamais quitté l'Atlantique. Et donc du coup, l'attaché de presse ameute toute la presse, il répand la bonne nouvelle. Et donc, Crowhurst, il prend des nouvelles des concurrents. Et donc, il y en a un qui est en tête, qui va arriver quelques jours plus tard, le 22 avril, et qui va emporter le Golden Globe. Il y en a un autre qui s'appelle Tetley, et puis c'est tout. Donc sur les 9, il reste que 3. Dont un qui va gagner. Et les autres, ils ont abandonné les uns après les autres. Et là, il se rend compte qu'il s'est mis dans une situation complètement inextricable. Et donc, du coup, il va mettre au point une nouvelle stratégie. Du coup, il se dit, maintenant, je vais faire exprès de perdre. Comme ça, les organisateurs de la course, ils vont pas trop regarder ce qui est en train de se passer, quoi. Mais alors, c'est terrible. En fait, l'autre concurrent qui est encore en tête, croyant que Crowhurst est juste derrière lui, il tente de garder l'avantage. Et donc, il pousse son bateau à fond. Et donc, la coque de ce bateau finit par se briser. Donc, Crowhurst, il se trouve tout seul en course pour son plus grand malheur. C'est terrible, cette histoire. Aveuglé par son orgueil, cet homme, il s'enfonce dans ses mensonges. Et ces entreprises vont de mal en pis. C'est terrible. Et en fait, qu'est-ce qui l'a conduit là ? Finalement, c'est son orgueil. Pas reconnaître que finalement, tout ce qu'il avait imaginé, pensé, ça tenait pas la route. Et finalement, je crois qu'on est tous, je suis même sûr, qu'on est tous tentés par l'orgueil dans plein de domaines différents. Alors, ça peut être nos capacités intellectuelles, comme cet homme. Ça peut être nos capacités physiques. Notre réussite, nos talents, notre situation professionnelle, sociale, notre glorieuse histoire familiale, notre héritage, voire même notre performance spirituelle. Moi, je lis la Bible une fois en entier tous les ans. Il y en a d'autres qui n'arrivent même pas à le faire en 5 ans, je veux dire, c'est pas mal. En fait, le problème de l'orgueil, c'est que c'est un des péchés qui est un des péchés racines. Dans le livre de la Genèse, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont cru le serpent qui leur disait que manger du fruit de l'arbre interdit par Dieu leur ouvrirait les yeux. Ça leur permettrait d'être comme Dieu, de choisir eux-mêmes entre le bien et le mal. Et finalement, c'est cet orgueil humain, se dire « moi, je peux être mon propre Dieu », c'est une des racines de la rébellion et du péché. Et comme c'est une racine, c'est dur à enlever. Et puisque nous sommes tous tentés par l'orgueil, la première chose à faire, c'est de reconnaître notre état. Et dans ce psaume qu'on a lu tout à l'heure, on voit les versets 2 à 5 qui sont la description du méchant, de l'impie, de celui qui ne tient pas compte de Dieu. Et en fait, dans ces versets, on voit que le méchant, la personne qui ne veut pas respecter Dieu, elle se dit « si je suis ma propre référence, finalement, je n'ai pas besoin d'une référence externe. Si je suis mon propre Dieu, je n'ai pas besoin de respecter les commandements de Dieu. » C'est insensé, c'est vrai que ça n'a pas de sens. C'est « je mets l'homme au milieu, et puis Dieu, à la limite, un peu à la périphérie, mais... » Donc, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise de ce qui est bien ou ce qui n'est pas. C'est quelque chose qui est quand même assez courant de nos jours. Et puis c'est aussi quelque chose qui était assez courant à l'époque où le roi David a écrit ce psaume. On peut penser par exemple à l'histoire de Saül, qui finalement avait reçu des commandements de Dieu, et puis il ne les a pas suivis, il ne les a pas respectés. Il a voulu en faire qu'à sa tête. Et si on lit l'histoire de Saül, c'est une longue chute où il s'enfonce dans le mensonge et dans le péché. En fait, le méchant, celui qui ne se soucie pas de Dieu, il se considère de façon trop flatteuse pour reconnaître ses torts. Il nie la gravité de son péché, de ses pensées, de ses actes. Il se dit qu'il est dans son droit, puisque finalement, il définit lui-même sa propre échelle de valeur entre ce qui est bien et ce qui est mal. Dans notre nature humaine, on est toujours beaucoup plus indulgent avec ses propres fautes, son propre comportement, ses propres péchés que ceux des autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On s'excuse vachement facilement. Hein. Et ça, c'est aussi de l'orgueil. On voit bien les défauts des autres. Par contre, quand quelqu'un nous dit notre propre défaut, on n'aime pas. Et ça, c'est le problème de l'orgueil humain. Hein. Quand on est être pris en faute, c'est humiliant. Se reconnaître faillible, c'est aussi humiliant. Mais finalement, en voyant cette description du méchant, de celui qui est trop orgueilleux, on se rend compte de ce qu'il faudrait faire pour avoir la solution. Le verset 3 dit « Ce méchant se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. » Oui, il faudrait reconnaître sa faute, première étape, et puis choisir de la détester. Du coup, je me pose la question, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je déteste mes fautes? Est-ce que je rejette vraiment le mal? Est-ce que je fais mourir mon caractère de pécheur? Ou alors, est-ce que je suis un peu indulgent avec mon caractère en me disant « bah ça, c'est mon caractère, je l'ai hérité de mes parents, je suis pas si mauvais que ça, je... » Finalement, il y en a des pires. Mais ce que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 5, c'est « Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Reconnaître où j'en suis, et puis choisir de détester mes fautes, c'est les premières étapes. Si on continue dans cette description du méchant, on a le verset 4 qui nous montre les conséquences de ce manque d'humilité et de réalisme sur sa propre nature. C'est les mensonges, c'est la tromperie, et finalement on se sert de son intelligence pour échafauder des justifications à son comportement, au lieu de l'utiliser pour faire le bien. Finalement, de notre caractère, de nos pensées, découlent des paroles qui sont aussi des péchés. Et finalement, le méchant, on voit qu'il est en roue libre. Il a rompu avec la sagesse. Il n'a plus aucune référence morale. Et finalement, même au verset 5, il en est à planifier ses péchés. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne. Et finalement, comme Pharaon qui s'est obstiné à ne pas écouter Moïse et Aaron qui plaidaient en faveur du peuple d'Israël en Égypte, le méchant, il s'obstine dans sa voie qui est sans issue. Eh bien, si on reste sur cette description de la nature humaine sans Dieu, c'est sombre. Hein. C'est sombre, mais ce psaume, il est plein de contrastes. Sans transition aucune, David fait comme le tournesol. Au lieu de regarder à lui-même, il se tourne vers Dieu. Et à partir du verset 6, l'ambiance change complètement. Et puisque nous sommes tous tentés par l'orgueil, il faut d'abord qu'on tourne nos regards vers le grand Dieu. Et dans ces versets 6 à 10, David décrit l'amour et la justice infinie de Dieu. Et il utilise des comparaisons parce que finalement, notre langage il est trop limité pour rendre compte de la grandeur de qui est Dieu. Et versets 6 et 7, il dit « Jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. » Ça a éveillé plein d'images en moi. ce verset 6, « Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. » Là, ce qu'on voit, là, c'est la face nord des Grandes Jorasses, dans le massif du Mont-Blanc. C'est une magnifique et gigantesque muraille de 1200 mètres de haut. La crête des sommets, là, le plus bas, il est autour de 4000 mètres, le plus haut à 4200 mètres. C'est une des faces nord les plus prestigieuses des Alpes. Un des sommets les plus connus dans le monde des alpinistes. Je ne sais pas si vous voyez un peu sur la gauche, là, il y a un grand bout de glacier, là. Ça s'appelle le linceul, parce que c'est blanc, hein. Et puis qu'on risque de mourir quand on y monte. Là, j'ai une photo d'alpiniste qui monte dans le linceul, là. C'est juste pour donner une image du vertige que c'est cette face nord. Et ce que dit le verset 7, « Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. » Voilà, la justice de Dieu, c'est quelque chose qui en impose. Et puis les jugements de Dieu, ils sont plus profonds que l'immense océan. Ces sentences ont la profondeur des abîmes. Alors, j'imagine que vous connaissez, enfin, pour une bonne partie d'entre vous, ce que représente cette photo. Ouais, le rocher du diamant. C'est tout au sud de la Martinique, pas loin de chez mes beaux-parents. Et un jour, avec Christelle, on a eu le privilège de faire un petit tour avec un des oncles de Christelle, avec une barque. Il y en a qui s'en souviennent. Et on a juste pris un masque et un tuba, et donc le rocher fait 175 mètres de haut. Et en fait, on a juste plongé en nageant au pied du rocher. Et en fait, ce rocher, il descend directement dans la mer, comme ça. Et il y a plus de 40 mètres de profondeur juste au pied du rocher. Et donc, on se retrouve, on sort du bateau, et là, on est comme si on était à 40 mètres, l'eau est bleue, transparente. Et ça m'a donné une impression de vertige, comme j'ai rarement eu. On se dit, oulala, il faut que je rentre dans le bateau, je ne peux plus regarder ce truc-là. Alors, pour ceux qui font de la plongée, c'est un endroit très intéressant. Il y a, par exemple, une faille qui parcourt le rocher de part en part, à environ 16 mètres de profond. Donc, je crois qu'avec un niveau 2, on y arrive, de passer... voilà. Donc, mais en fait, c'est vraiment impressionnant. Et ça nous fiche le vertige. Et ce que le psalmiste veut dire, c'est que finalement, la justice et les jugements de Dieu, c'est quelque chose qui nous donne le vertige. Et puis au verset 6, il dit « Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'au nuage monte ta fidélité. » En fait, si loin qu'on regarde, finalement, on est encore plus petit que les dimensions de la bonté et de l'amour de Dieu. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Ça, c'est le psaume 103, verset 11. Et dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, il écrit en disant « Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. » Finalement, on a la justice de Dieu, sa vérité, qui sont comme une muraille, qui nous donnent le vertige, qui sont solides, qui sont infinies. Et on a son amour, au-delà duquel on n'est même pas capable d'imaginer quelque chose. Tout ce qu'on est capable de voir, son amour est encore plus grand. Et ces deux choses, c'est des caractères essentiels de Dieu. Son amour infini, sa bonté infinie, et puis sa justice, sa vérité. Il y a dans le livre de Job aussi, au chapitre 11, les versets 7 à 9. « Prétends-tu pénétrer les profondeurs de Dieu, saisir la perfection du Tout-Puissant ? Elle est plus haute que le ciel. Que feras-tu ? Elle est plus profonde que l'abîme. Qu'en sauras-tu ? Elle est plus longue que la terre, plus large que la mer. » Et Romains 11, chapitre 11, verset 33 nous dit « Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. » Ces images vertigineuses que le psalmiste utilise, c'est pour nous dire que le caractère de l'amour de Dieu, c'est quelque chose de vertigineux, qui dépasse complètement notre entendement. Et ensuite, le psalmiste ne s'arrête pas là. Il continue. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes, que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils savourent les richesses des festins de ta maison. Au torrent des délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Jésus a aussi utilisé cette image hein, des hommes qui se réfugier sous les ailes de Dieu. Quand il parle à Jérusalem, dans Matthieu chapitre 23, versets 37 et 38, et il dit « Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Et là, Jésus pleure parce que l'homme est rebelle et impie, alors que lui, ben, il tend ses ailes pour protéger sa création. Et ce qu'on voit dans ces versets-là, c'est que ben, Dieu, il est proche de ses fidèles. Il vient à leur secours. Ses créatures trouvent refuge, abri, protection en lui. Et ensuite, il utilise un autre vocabulaire, versets 9 et 10. « Ils savourent les richesses des festins de ta maison. Au torrent des délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de vie. » Dieu nous invite à savourer des festins dans sa maison, à avoir la soif étanchée par le torrent de ses délices. C'est un vocabulaire de repas, de fête, de plaisir, de joie d'être en relation avec son Créateur, de proximité. Et Dieu, il est la source de vie. Et on peut avoir la vie si on est avec lui, auprès de lui, si on est en relation avec notre Créateur. On peut être éclairé par sa lumière, c'est lui qui produit la lumière. En aucun cas, nous, on est une lumière de quoi que ce soit. Et c'est en étant en communion avec Dieu qu'on peut voir clair sur notre propre vie, sur nos agissements, sur nos pensées. Dieu dit qu'il est notre abri, qu'il prend soin de nous, qu'il nous donne la vie, qu'il nous éclaire. Et finalement, qui est celui qui nous rassasie? Qui est le pain de vie? Qui est celui qui étanche notre soif? Qui est la source de vie? Qui est celui qui est la lumière qui nous éclaire? Qui est celui qui sauve? Qui s'est décrit de cette façon-là dans la Bible? C'est Jésus, en fait. Le psalmiste, là, il a une image de Dieu et d'un Dieu qui est proche de ses créatures. Mais finalement, quand est-ce que Dieu s'est rendu le plus proche de ses créatures? C'est en venant même, en prenant notre enveloppe, en venant à notre niveau. Et ce Jésus, il est venu et il a dit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Il a dit aussi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Toutes ces choses que le psalmiste entrevoyait de la nature de Dieu, de sa proximité avec nous, ça s'est accompli en Jésus-Christ. Alors du coup, je me pose la question, est-ce que vraiment je trouve de la joie? Est-ce que je trouve du plaisir dans la relation avec ce Dieu qui m'aime tellement, d'une façon tellement immense, et en même temps tellement tendre et profonde? J'aime bien cette image de la poule avec ses petits. C'est quelque chose de tellement à notre portée. Donc ce Dieu immense qui nous donne le vertige son caractère, sa justice, et en même temps ce Dieu qui veut être si proche de nous et qui l'a accompli à travers Jésus-Christ. J'avais encore une image sur la source. Alors ça, c'est une source qui est dans le Doubs, dans le Jura. C'est quelque chose une source qui coule sans jamais s'arrêter. Ça, c'est quelque chose qui m'impressionne. Il y a des endroits comme ça, l'eau, elle jaillit et elle ne s'arrête jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui ferme le robinet. Bah, Dieu, c'est exactement ça. Il nous donne la vie en abondance. Sa source, elle ne s'arrête pas. Il n'est pas mesquin en disant, bon, toi, tu as déjà eu ton verre, c'est bon, on passe au suivant. Non, non, non. Il a à notre disposition des réserves de joie, de plaisir infinies. Et puisqu'on est tous tentés par l'orgueil, nous devons demander à Dieu qu'il nous transforme et qu'il nous soutienne. Et c'est ce que fait ce psalmiste à la fin de ce psaume. Il s'adresse à Dieu en lui disant « Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds et que les méchants ne me chassent pas. » En fait, la prière du psalmiste, c'est « Il faut que je sois toujours conscient de ton amour et de ta justice. Que je ne sois pas ébranlé ou atteint par les orgueilleux ou par les personnes qui ne veulent pas marcher avec toi. Que je sois protégé du mal, que tu me délivres de ce caractère pécheur, que tu me transformes et que de plus en plus j'apprenne et que j'acquière ton propre caractère. » Et ça, cette prière, on peut la faire, il faut qu'on la fasse. Alors, j'ai pas fini mon histoire, en fait, du début. Je vais pas vous laisser comme ça, en l'air. Cette histoire, elle se finit un petit peu comme la fin du psaume. Je vais reprendre ma feuille. Si je la retrouve, j'ai trop de feuilles. Donc ce navigateur, Crowhurst, il se retrouve seul en course et il est acculé. Il supporte pas l'idée de devoir vivre le restant de ses jours avec l'humiliation d'être le plus grand tricheur de l'histoire de la navigation. À ces moments-là, il commence à noircir les pages de son livre de bord de formules mathématiques, de digressions métaphysiques de plus en plus incompréhensibles. Après des mois de profonde solitude et d'une introspection terrifiante, Crowhurst entre dans un délire quasi mystique, tandis qu'il tourne en rond dans l'Atlantique Nord. Il sombre peu à peu dans la folie. Et le 1er juillet 1969, date à laquelle il couche ses pensées sur son journal de bord pour la dernière fois, il évoque un jeu qui doit prendre fin. Au bout de 243 jours d'errance, Crowhurst met fin à ses jours en se jetant par-dessus bord. Son corps ne sera jamais retrouvé. Mais son bateau sera repéré quelques jours plus tard et ramené à terre, avec à son bord l'épreuve accablante de son incroyable supercherie. Et ça, cette image-là, c'est le bateau de Crowhurst, ce qu'on en a retrouvé. Et ça colle avec ce verset 13 qui parle des méchants et qui dit « Voici, déjà ils succombent ceux qui font le mal, ils sont renversés, ils tombent sans pouvoir se relever. » En fait, l'orgueil humain, ça nous conduit à l'échec. C'est une voie sans issue. Si on reste là-dedans, c'est la mort assurée. Pas seulement la mort physique, mais la mort éternelle. Je ne veux pas que quiconque ici, aujourd'hui, qui a entendu ça, finisse comme ça. Je suis ému. Dieu nous offre son amour infini. C'est à notre portée. Il s'est mis à notre portée avec Jésus-Christ. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a qu'à l'accepter. Donc voilà. Prions pour terminer. Seigneur, notre orgueil humain, il est ancré bien profond dans notre nature. C'est une racine qui a de la peine à s'enlever, à s'arracher. On a besoin que ça soit toi qui vienne l'enlever. On a besoin de ton amour, on a besoin de ta justice. On a besoin de se tourner vers toi. Parce que c'est en toi qu'on a la lumière sur notre propre nature. Merci pour ce que tu nous apprends à travers ce psaume. Merci parce que, Seigneur, aujourd'hui encore, tu nous appelles. Et Seigneur, merci parce que tu nous accueilles. Tu nous connais parfaitement. Tu sais bien là où il y a des choses sombres, mauvaises. Tu veux le transformer. Et Seigneur, on veut te faire cette prière ce matin. Que nous puissions voir la lumière sur nous et que nous puissions bénéficier de ton amour, nous réfugier auprès de toi. Amen.